Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous, le week-end approche et j'espère que vous aurez un peu de repos. Nous sommes le vendredi 14 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Un syndicat porte plainte contre ING et deux de ses responsables. La banque assurance se serait rendue coupable d'avoir fouillé dans les mails de représentants du personnel. L'affaire pourrait aboutir à des sanctions pénales. Une enquête de Bpost conclut à des violations de règles internes de la part de l'ancien CEO, Dirk Thiré, et deux de ses adjoints dans l'affaire des ententes illicites présumées entre acteurs du marché de la distribution de journaux. Le dossier prend une tournure politique. Enfin, l'activité immobilière a ralenti en début d'année. La photo prise à la hausse des taux, nous vous donnons les clés dans un tout nouveau podcast pour acquérir votre première habitation. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
ING Belgique à nouveau dans la tourmente. Le syndicat socialiste Le 7K porte plainte auprès de l'Auditorat du Travail contre la Banque Assurance, son CEO et sa DRH. 4 plaintes ont été déposées. Il aurait reproché d'avoir épluché plus de 2000 adresses mail pendant 1 ou 2 mois dans l'entreprise, en particulier de représentants syndicaux. Bonjour Gilles Quastio.
Bonjour Guillaume.
Vous avez travaillé sur ce dossier. Dans quel contexte intervient-il ?
C'est un contexte social assez tendu. Les concertations sociales sont assez compliquées, particulièrement avec une des organisations syndicales, le 7K, puisque le délégué syndical principal de cette organisation a été licencié récemment. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir divulgué des informations confidentielles dans le cadre des newsletters qu'il envoie à ses affiliés.
Alors, dans cette nouvelle affaire, que risquent ING et les deux membres de la direction visés par ces plaintes ?
Donc on parle de plainte au pénal et donc il y a des possibilités d'amende pénale ou de peine de prison éventuellement. Mais pour ça, il faudra que l'auditorat du travail d'abord considère qu'il y a suffisamment de charges nécessaires pour renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel. Donc évidemment, ça va quand même prendre un certain temps.
Mais au-delà de ça, il y a aussi le risque réputationnel pour l'entreprise.
Alors c'est le risque principal aujourd'hui. C'est vrai que des plaintes au pénal contre des dirigeants, c'est quelque chose d'assez peu fréquent. On l'a vu avec Deleuze, maintenant on le voit avec ING. C'est vrai que dans le secteur bancaire, on n'était pas habitué à ce type de démarche, à ce type de relations très conflictuelles dans les banques. Mais ce qu'on pourrait voir, c'est s'il y a effectivement un renvoi devant le tribunal correctionnel, peut-être un impact aussi du côté du conseil d'administration d'ING qui pourrait commencer à se poser des questions sur ses propres dirigeants.
Et du côté de la banque assurance, on dément toutes ces allégations et on se félicite des discussions qualifiées de constructives avec les partenaires sociaux, sans autre commentaire. La Wallonie veut se faire une place dans le secteur de la production d'hydrogène. L'idée n'a de cesse d'être répétée par les autorités. Ainsi hier, la région a signé un partenariat financier avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour le développer. Cet accord débouchera à terme sur l'octroi de lignes de crédit à la Wallonie et à des entreprises. C'est une étape cruciale pour le financement de projets. Il faut trouver de l'argent à un moment où la région doit observer une stricte rigueur budgétaire. On ne parle pas encore de montants précis alloués à la Wallonie, mais la BEI vient de libérer 1 milliard d'euros pour soutenir l'hydrogène en Europe. Plusieurs projets régionaux pourraient en bénéficier à court terme, en plus des 88 millions déjà prévus pour cette filière dans le plan de relance. Rappelez-vous, il y a quelques mois, l'autorité belge de la concurrence ouvrait une enquête sur des ententes présumées entre acteurs du marché de la distribution de journaux. En cause, Bpost et DPG, un éditeur de presse flamand entre autres, ainsi que PPP, un distributeur. L'affaire avait coûté leur poste au CEO de Bpost Group et à deux de ses adjoints. Sans attendre l'issue des enquêtes en cours, l'opérateur postal avait lancé sa propre enquête pour tenter de faire la lumière sur cette affaire et voir si des règles internes avaient été bafouées. Plus de 100 000 mails et documents ont été passés à la loupe. C'est ce qu'on appelle une enquête forensique. Nicolas Kessey, vous avez eu accès au dossier. Quelles sont les principales conclusions de l'enquête ?
Bon, dans les grandes lignes, alors, il apparaît qu'il y a eu effectivement toute une série d'accords et de rencontres secrètes entre Bpost, les éditeurs de journaux flamands DPG Media et Mediahuis, et PPP, un distributeur de journaux. Ces réunions sont interdites certainement dans le cadre de l'octroi d'une nouvelle concession pour la distribution des journaux. Et la plupart de ces réunions sont vraiment restées secrètes en interne. Il apparaît aussi qu'il y a eu un accord tripartite entre bien Bipost, PPP et les éditeurs de journaux pour que PPP retire sa candidature de ce marché public. C'est dans ce dossier, enfin, on retrouve aussi des traces de manipulation de preuves et de faux en écriture, ce qui évidemment là relève plus du pénal alors.
Alors, que faut-il retenir de ce rapport et à quoi va-t-il servir finalement ?
Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il semble qu'au cours des dernières années, il y a une culture assez répandue d'un défaut de conformité, que certains des plus hauts cadres semblaient s'asseoir sur les règles en interne et que le culte du secret est un petit peu devenu la norme. Maintenant, il faut voir comment Bipost va utiliser les conclusions. On est pour le moment dans l'octroi d'un nouveau marché, donc je suppose qu'ils vont tirer les conséquences de cet audit pour revenir à une norme plus claire, plus saine et décrocher le nouveau marché.
Mais il risque d'y avoir aussi des conséquences politiques à cette affaire.
Il y aura des conséquences politiques parce que la NVA, bille en tête et suivie de près par les libéraux flamands, veulent la suppression de cette concession. Comme on l'a dit, ça va batailler maintenant au niveau politique.
Et les parties concernées par cette affaire n'ont pas souhaité réagir, mais assurent de leur entière collaboration à l'enquête. Un peu plus d'un dollar dix. L'euro a atteint son plus haut niveau hier en un an face à la monnaie américaine. Il reprend du poil de la bête. Il est donc bien loin le plancher à 0,95$ atteint fin septembre. La devise européenne va mieux qu'on se le dise, elle a repris plus de 15% de sa valeur face au billet vert. Mais comment cette tendance s'explique-t-elle ? Eh bien par la politique bientôt divergente au niveau monétaire que vont mettre en place la zone euro et les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, la Réserve fédérale devrait faire une pause dans son resserrement monétaire, mais ce n'est pas ou pas encore le cas en Europe. La Banque centrale européenne devrait même durcir prochainement sa politique et relever ses taux d'intérêt directeurs. Deux explications à cette divergence plutôt inhabituelle. L'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, reste plus élevée en Europe qu'aux États-Unis. Et la Fed a commencé à relever ses taux bien plus tôt, 4 mois avant la BCE. C'est un peu le moment de vérité pour Wall Street. Après avoir connu une croissance à peu près soutenue depuis le début de l'année, les marchés sont suspendus aujourd'hui aux premiers résultats trimestriels des grandes entreprises américaines. Et on commence par quelques poids lourds du secteur financier comme Citigroup, JP Morgan Chase ou encore Wells Fargo. Selon les analystes, ils devraient plutôt bien s'en sortir ou en tout cas mieux que les autres secteurs. De quoi restaurer la confiance dans les banques quand on pense à la crise financière liée à la faillite de la Silicon Valley Bank il y a un mois. Pour le reste, 6 des 11 secteurs qui composent l'indice S&P 500 devraient enregistrer des bénéfices à la baisse au premier trimestre. Globalement, la chute devrait être de 7,5%. Et ce sont les petites sociétés qui trinqueront le plus, ce qui ne calmera pas les inquiétudes autour d'une récession dans les prochains mois. Selon le dernier baromètre des notaires, l'activité immobilière a encore diminué sur les 3 premiers mois de l'année. La décrue s'était amorcée fin 2022, elle ne fait que se renforcer, moins 7,1% par rapport à la même période l'année dernière. Mathilde Ridol, vous avez analysé ces derniers chiffres. Comment expliquer tout d'abord que les transactions immobilières n'aient diminué que de 7,1% alors que le marché des crédits hypothécaires, lui, a baissé de 47%?
En fait, ça s'explique parce que les crédits hypothécaires ont été beaucoup portés lors des dernières années par les refinancements, c'est-à-dire que les taux ayant énormément baissé et étant vraiment à des niveaux planchers, beaucoup de particuliers qui avaient un crédit hypothécaire ont profité des taux bas pour refinancer leurs anciens crédits qui avaient des taux, par exemple, de 4, 5, 6%. Dès lors, là, ça valait vraiment la peine de profiter des taux bas. Tandis que là, les refinancements sont presque inexistants désormais dans le portefeuille des banques puisque les taux ont augmenté. Donc, les personnes qui ont eu des crédits les dernières années n'ont aucun intérêt de passer d'un taux de 2% à 4%, par exemple. Et en outre, il y a toujours forcément des personnes qui achètent sans crédit.
Alors, il ne faut pas trop s'alarmer de ces chiffres de l'activité immobilière cette année. 2022, les premiers mois, et 2021 avaient été des années exceptionnelles, et d'autres facteurs entrent en ligne de compte.
Les prix, eux, de leur côté, affichent plutôt une stagnation. Donc, on est plutôt dans une très légère progression de 1,1% pour les maisons et 1,5% pour les appartements en moyenne en Belgique. Cela peut être expliqué par plusieurs raisons. De fait, il y a d'abord un temps pour absorber la hausse des taux sur le marché immobilier, mais aussi parce qu'il y a forcément des personnes qui se disent on ne va pas vendre, soit parce qu'ils ne veulent pas vendre à perte, ou alors parce qu'ils ne veulent pas ils ne sauront pas comment placer le produit de la vente. Est-ce qu'il faut le mettre dans des actions, dans des obligations? Donc souvent, les gens qui vendent aujourd'hui sont plutôt des gens qui sont poussés dans le dos à le faire. Donc ça peut être un déménagement, un divorce, une séparation. Voilà, des choses qui sont forcément moins gaies, mais qui les contraignent de vendre un bien, tout simplement.
Et toujours dans le même domaine, une nouvelle série de podcasts fait son apparition aujourd'hui dans la Galerie de l'Écho. Il s'agit de Tuto Immo pour tout savoir de l'investissement immobilier. Comment acheter son premier bien? Est-ce que cela vaut toujours le coup? Et à quel prix? Sunshine Courrier décrypte toutes ces tendances avec une équipe de spécialistes et Isabelle Dickmans du service Mon Argent de l'Écho. Justement Isabelle, vous êtes avec nous ce matin. Dites-nous en quoi ces épisodes sont essentiels pour bien cerner le marché du logement.
En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le marché immobilier a complètement changé en quelques mois avec des taux qui remontent, avec des biens qu'il faut mettre aux normes énergétiques, des factures d'énergie qui explosent, etc. Et donc, aujourd'hui, le jeune qui veut acheter son premier bien, il est peut-être face à des défis un petit peu plus compliqués qu'il y a quelques mois. Et donc, on pensait que c'était le tout bon moment pour se lancer avec ce tuto IMO.
C'est en fait un guide étape par étape en 7 épisodes.
Exactement. Donc, on va vraiment suivre le parcours d'un primo acquéreur. Et donc, on va vraiment essayer de répondre à toutes les questions qui se posent. Donc, dans tout son cheminement, pourquoi est-ce qu'il doit devenir propriétaire? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Comment faire son budget? Quelle banque aller voir? Quel crédit choisir, etc. Et puis ensuite, comment visiter un bien? Donc, pour ça, on a sollicité toute une série d'experts qui vont, en fait, répondre à toutes nos questions, que ce soit des planificateurs financiers, des spécialistes du crédit hypothécaire, forcément, agents immobiliers aussi. Une architecte qui va nous expliquer comment on visite un bien, à quoi faire attention, vraiment de manière très, très pratique. Et aussi, bien sûr, le notaire, personne qui va concrétiser tous ces projets. Donc, voilà.
Merci Isabelle. Et la série de podcasts Tuto Immo est à retrouver sur notre site l'écho.be via l'onglet podcast. Notre application est sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts dès aujourd'hui. Voilà de quoi largement occuper votre week-end. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations et vous souhaite une très belle journée. C'est Laurent Fabry qui prend ma succession lundi. Alors, je vous dis à bientôt.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.